21h à Nouakchott et à Conakry, 22h à N'Djamena. Bienvenue dans Sahel Plus, préparé et présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus. Après le bulletin d'information, nous ouvrirons l'émission par le renforcement des mesures de sécurité au Tchad dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Nous serons en Mauritanie pour notre dossier.
Vraiment, il n'y a pas de sécurité. On dénonce les accusations fausses qui sont portées sur Mme Minatou Mtrimouhtar. On la menace de mort, même de profanation. Et vraiment, ce n'est pas juste.
La Mauritanie, où des dizaines de femmes ont manifesté pour dénoncer la fatwa émise contre une militante des droits de l'homme. Reportage de Brahim Dia à suivre. Nous serons ensuite en Guinée où l'opposition a suspendu sa participation à l'Assemblée nationale et menace de lancer de nouvelles manifestations. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir et bienvenue à ce tour d'horizon de l'actualité et direction la République centrafricaine où au moins 21 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées alors que les travaux préparatoires du dialogue national pour la réconciliation se poursuivent à Bangui. Ces nouvelles violences sont signalées au centre-est du pays où l'on déplore aussi une centaine de maisons brûlées dans le village de Liwa à 10 km de Bambari. Échange de tirs aujourd'hui dans la capitale du Nord Kivu entre soldats de la RDC et du Rwanda à la frontière commune près de Goma. Kinshasa a confirmé la mort d'un de ses soldats. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Ces combats ont commencé tôt le matin et ont duré plusieurs heures à Kanyesheza, un territoire de Nyiragongo dans le Nord Kivu. De nombreux habitants ont fui la zone suite à ces affrontements. Des sources militaires congolaises disent que les militaires rwandais ont enlevé un élément des FARDC qui était en position à Kanyesheza. Le porte-parole de l'armée congolaise au Nord Kivu, le colonel Olivier Amouli, a déploré ce qu'il a présenté comme étant une attaque sans motif de soldats rwandais. De son côté, le Rwanda accuse des soldats congolais d'avoir effectué une incursion sur son territoire et tiré sur ses soldats. Un communiqué gouvernemental citant la chef de la diplomatie rwandaise, Louise Mushikiwabo, a exhorté les autorités de la RDC à cesser toute attaque contre le territoire rwandais. Selon l'AFP, le gouvernement rwandais a saisi le mécanisme conjoint de vérification de la frontière qui regroupe plusieurs pays africains et l'ONU.
Merci Timothée Donangmaï. 15 ans de prison, c'est la peine infligée aux militants Alaa Abdel Fattah et 24 de ses partisans par la justice égyptienne. Ils sont reconnus coupables d'avoir mené une manifestation illégale avec violence sur la police. Alaa Abdel Fattah s'est fait connaître pour avoir dirigé les protestations qui ont conduit à la chute de Hosni Moubarak en 2011. Actualité au Mali, au moins 4 militaires tchadiens et maliens ont été tués lors d'un attentat à la voiture piégée à Aguelhok, dans le nord du pays, selon une source militaire de la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA. 8 personnes ont aussi été tuées ce mercredi par des hommes armés qui ont attaqué 3 villages de l'état du Plateau dans le centre du Nigeria, théâtre d'affrontements fréquents entre communautés. Les attaques se sont produites aux premières heures du matin quand des hommes armés ont ouvert le feu sur des civils et ont incendié des maisons dans ces villages du district de Riom. Le Nigeria, où les autorités de Borno disent n'avoir aucune connaissance d'un enlèvement de 20 femmes près de Chibok, cette nouvelle citée par des agences de presse dont Associated Press, indique que des militants de Boko Haram ont enlevé ces femmes à Garkin la semaine dernière. Le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef de la rébellion Riek Machar se sont fixés 2 mois pour former un gouvernement de transition, a annoncé mardi le premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn à l'issue d'une rencontre à Addis Abeba.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Après avoir pris la ville de Mossoul hier en Irak, les islamistes continuent leur progression. Ils sont entrés aujourd'hui à Tikrit, à moins de 200 km de Bagdad. Grève de taxis en Europe, ils protestent contre la concurrence jugée déloyale des VTC, les voitures de tourisme avec chauffeur, en particulier celles offertes par la société américaine Uber. La Russie a mis en garde l'Ukraine contre tout refus de l'offre faite par Moscou de réduire d'environ 20% le prix du gaz vendu à Kiev. Fin de ce bulletin d'information sur la Voix de l'Amérique à Washington. Retour à Sahel Plus avec Claire Morin-Gibourg.
clôtura la partie magazine de Sahel Plus et nous ouvrons l'émission par le Tchad. Dans le cadre de la lutte régionale contre Boko Haram, le Tchad a augmenté ses dispositifs de sécurité sur sa frontière avec le Nigeria et le Cameroun, ainsi que sur les routes menant à la capitale N'Djamena. Des mesures de sécurité mises en place pour lutter contre la secte islamiste, mais pas seulement. Écoutons Alexandre Ratebaye, il est le directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères tchadien.
Alors, il faut prendre ce phénomène dans un contexte un peu régional. Et le Tchad faisant partie du Sahel, il y a le processus de NOAKTCHAD auquel nous appartenons. Et dans le cadre de ce processus, il y a des mécanismes qui sont mis en place tendant à surveiller toute la zone sahélo-saharienne. Et très récemment, on note aussi les conclusions de la réunion de Paris comment lutter contre Boko Haram. Et le Tchad participe de cette dynamique-là. Donc, c'est la conjugaison des efforts au niveau régional. Et quand je me réfère spécifiquement à une des conclusions de la réunion de Paris, c'est de mettre une force régionale en place autour du lac Tchad. Le Tchad participe activement à cette décision.
Concrètement, qu'est-ce que le Tchad a mis en place ?
Alors, le Tchad, déjà depuis 2012, dans le cadre de la commission du bassin du lac Tchad, nous avons mobilisé la force tripartite que nous avions réactivée. Et pour cette force, le Tchad a déjà disposé d'un bataillon dédié à cette force-là. Donc, très pratiquement, voilà ce qui a été fait depuis 2012.
Il y a aussi des dispositifs qui ont été mis en place au niveau de N'Djamena.
Ça, c'est des mesures de sécurité qui sont usuelles et qui sont renforcées, tout simplement. C'est la surveillance au quotidien, mais renforcée.
Et vous l'avez renforcé pour lutter contre Boko Haram ?
Pour tout, pas uniquement Boko Haram. Vous savez, on ne peut pas circonscrire les questions sécuritaires à la dimension Boko Haram. Les manifestations peuvent varier. Et à cela, je pense que le Tchad se doit d'être en veille constante. Je pense que c'est à ce titre que répond ces mesures de sécurité.
Et particulièrement dans la lutte contre Boko Haram, quelle est la frontière qui vous inquiète le plus ?
Non, le dispositif, il est resté en constante veille, comme je l'ai souligné. Et quand vous regardez aujourd'hui la géopolitique du Tchad, nous sommes entourés par des foyers de tension. Que ce soit la Libye au nord, nous partageons une très longue frontière. Avec le Soudan, nous avons une force mixte qui est opérationnelle et qui fait des résultats. Au sud du pays, nous avons la situation en République centrafricaine. Et quand vous prenez l'ouest du pays, alors vous avez la frontière avec le Niger, le Nigeria et le Cameroun, nous partageons le lac Tchad. Et comme je l'ai indiqué dans le cadre de la force tripartite au niveau de contrôle des frontières du lac Tchad, le Tchad participe justement à cette force en y envoyant déjà en prédisposant un bataillon. Donc nous avons vraiment renforcé ce axe-là, autant pour endiguer le phénomène de Boko Haram, mais autant aussi pour contrôler le flux des armes légères et des petits calibres qui circulent un peu dans la bande sahélo-sahélienne.
Alexandre Ratebaye, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères tchadien. Petit détour par la Mauritanie pour notre dossier. La Mauritanie où des dizaines de femmes membres de l'AFCF, l'Association des femmes chefs de famille, ont manifesté en début de semaine devant la présidence de la République à Nouakchott pour soutenir leur présidente, Aminatou Mint Mokhtar. Aminatou est la cible d'une fatwa demandant sa mise à mort. Une fatwa qui suscite colère et indignation dans la société civile mauritanienne. Reportage à Nouakchott de notre correspondant Brahim Dia.
En décembre 2013, Mohamed Cheikh Oul Mkhaitir, jeune mauritanien de 28 ans, rend public via Internet un texte jugé attentatoire au prophète Mohammed. Des manifestations ont lieu à Nouakchott et à l'intérieur de la Mauritanie. Mohamed Cheikh, issu de la caste des forgerons, dans son texte, critique le système d'organisation de la société musulmane au temps du prophète. Il est actuellement en détention préventive pour apostasie et risque la peine capitale. Aminatou Mint Mokhtar, qui considère le jeune Mohamed Cheikh comme détenu d'opinion, a demandé en sa faveur un procès équitable. C'est cette demande qui est à l'origine de la fatwa. C'est à travers les réseaux sociaux que Yehdi Ouldahi, chef de file d'Ahbab Rasoul, les amis du prophète, a demandé de tuer Aminatou et de lui crever les yeux. Les organisations mauritaniennes de défense des droits humains dénoncent un appel au meurtre et demandent à l'État mauritanien de sévir contre les auteurs de cette fatwa. Aïcha Sow, jeune militante de l'AFCF, fait partie des manifestants devant la présidence.
Je suis là pour soutenir notre président de l'AFCF, Aminata Mint Mokhtar, afin que l'État assure sa sécurité, parce qu'il n'est pas question qu'on laisse le dernier mot aux extrémistes.
Pour Khadija Toumint Mohamed, militante des droits de l'homme, cette affaire est un signe d'absence d'État de droit.
Vraiment, il n'y a pas de sécurité. On dénonce les accusations fausses qui sont portées sur Mme Aminata Mint Mokhtar. On la menace de mort, même de profanation. Vraiment, ce n'est pas juste. Nous pensons que nous étions dans un état de droit, alors que ce n'est pas vrai. C'est de la mascarade, c'est du cinéma.
Madame Sinia Bokoum, militante des droits de l'homme, estime, elle, qu'il y a violation de la liberté d'expression.
Nous soutenons la présidente Aminata Mint Mokhtar parce qu'elle a reçu des menaces sur l'Internet. Ces gens-là veulent la tuer, ou bien l'assassiner, ou bien lui créer des problèmes. Et cela ne peut, ce qui veut dire que nous ne sommes pas dans un pays de droit, dans un état de droit. Nous réclamons, et ce qui aussi veut dire que nous ne sommes pas dans un pays où la liberté d'expression existe parce qu'elle n'a fait que donner son opinion, comme d'habitude, par rapport à beaucoup de thèmes. Et pour cela, ces extrémistes-là l'ont menacé de la tuer, de la kidnapper et de lui faire d'elle beaucoup de choses, de mauvaises choses. Donc c'est pourquoi nous sommes là pour demander que ce monsieur-là soit condamné ou bien nous demandons un jugement à notre État.
Le Forum national des organisations des droits humains, qui regroupe une quinzaine d'associations, exige des autorités mauritaniennes la prise de mesures en vue d'arrêter les mains criminelles qui menacent la quiétude des citoyens. Le MPR, Mouvement pour la Refondation, un des rares partis politiques qui a réagi à cette affaire, exige également la même chose. Pour l'instant, ces appels des défenseurs des droits de l'homme n'ont pas été entendus. Aucune poursuite n'a été officiellement engagé contre Yehdi Ouldaï, auteur de la fatwa controversée. Pour Zeynabou Mint Taleb Moussa, présidente de l'Association mauritanienne pour la santé de la mère et de l'enfant, ce genre d'appel au meurtre a valeur d'incitation au terrorisme.
C'est menacer une musulmane, une mère d'une famille, donc de la menacer à mort, on la tue. On détruit ses biens, on enlève ses yeux. Ça, quand même, c'est grave et c'est nouvelle, ces choses-là. Dans notre contexte mauritanien musulman, nous avons tous le bâton devant. Si on nous dit le prophète, nous avons tous le bâton devant. Parce que tous, nous, c'est ça notre sang. Donc, nous ne devons pas qu'un musulman se mette debout, quand même, pour dire je tue une musulmane. Donc, ça, quand même, c'est une incitation au terrorisme. Et ça, je pense qu'en Mauritanie, ça ne peut pas y être.
Brahim Dia, à Nouakchott. Pour la Voix de l'Amérique.
En Guinée, l'opposition a suspendu sa participation à l'Assemblée nationale et menace le pouvoir de nouvelles manifestations de rue. Les partis d'opposition accusent le gouvernement de ne pas respecter les accords politiques du 3 juillet 2013 et de manquer de volonté à mettre en place un cadre de concertation politique. De Conakry, la correspondance de Zakaria Camara.
Les leaders politiques de l'opposition guinéenne se sont réunis lundi au QG de l'UFDG de Sélude Alain Diallo. Quelques heures après, leur porte-parole annonce aux journalistes le constat que l'opposition fait de la situation politique en Guinée. Aboubakar Silla.
Le dialogue que nous avons tant réclamé ne parvient pas à s'organiser parce que le pouvoir refuse obstinément la mise en place d'un cadre de concertation qui aurait pu permettre de discuter des problèmes liés non seulement aux élections mais à la gouvernance politique, économique et sociale de ce pays. Le deuxième constat que nous avons fait, c'est que les accords politiques du 3 juillet demeurent toujours non appliqués dans leur généralité. Certaines dispositions de ces accords sont purement et simplement violées.
Il faut des conditions de transparence pour les futures élections, se défend l'opposition guinéenne qui décide de bouder momentanément l'Assemblée nationale, mais pas seulement, elle menace de descendre dans les rues.
L'opposition républicaine a donc décidé de prendre les décisions suivantes. Premièrement, de suspendre jusqu'à nouvel ordre sa participation à l'Assemblée nationale. Deuxièmement, de reprendre l'organisation de ces manifestations sur les places et sur les voies publiques.
Cette décision de l'opposition guinéenne est largement commentée par les Guinéens.
5 mois et se retire encore. Vraiment, c'est pas bon de tous les Guinéens.
Je trouve ça inadmissible parce qu'ils sont là-bas, c'est pas en tant qu'opposants, ils sont là-bas pour représenter le bas peuple. S'il y a un problème entre la mouvance et l'opposition, ils doivent expliquer ça entre eux là-bas.
Se retirer aujourd'hui de l'Assemblée, c'est permettre à la mouvance présidentielle de faire passer de force certaines lois qui peuvent ne pas être en faveur de la nation, qu'ils vont regretter amèrement.
L'opposition guinéenne décide donc de quitter momentanément l'Assemblée nationale et le porte-parole du gouvernement, Albert Damantan Camara, se dit surpris que cela arrive au moment où les députés s'apprêtent à ratifier le cadre d'investissement du projet Simandou avec Rio Tinto. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
C'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Joselle Morissin. À la console, Tian Wang. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec Al Sara et le titre Wad Al Nouba. La chanteuse soudanaise Al Sara participera demain à l'excellent Sonar Festival de Barcelone en Espagne. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur La Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée et bonne nuit à tous.